Le journal de l'économie sur Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
Bon réveil, bonne journée. On parlait de la vaccination à l'instant. Combien de temps faudra-t-il tenir? Sans doute encore 4 à 5 mois, disait hier Peter Altmaier, le ministre allemand de l'économie. Même tonalité en France. Un vendredi, Jean Castex prévenait qu'il allait falloir vivre avec le virus sur le temps long et qu'il travaillait à des règles pour le pays jusqu'à l'arrivée du vaccin. Pour les restaurateurs, hors de question, dans tous les cas, de rester fermés des mois. Ce week-end, l'UMIH, le principal syndicat des métiers de l'hôtellerie, a engagé un recours contre leur fermeture imposée depuis le 29 octobre. Il y aurait, du point de vue des restaurateurs, rupture d'égalité entre eux et la restauration collective qui, elle, reste ouverte. Écoutez Roland Aigui, le président confédéral de l'UMIH.
Ce protocole sanitaire, on l'a travaillé avec le ministère de la Santé, avec tout l'ensemble des organisations professionnelles. On l'a renforcé il y a quelques semaines, effectivement, pour accueillir de la meilleure façon les clients et pour protéger nos salariés. Et c'est pas une attaque contre la restauration collective, mais enfin, on s'aperçoit quand même que ils ont aussi le même protocole sanitaire, ce qui est normal, et ils accueillent potentiellement les mêmes clients, les mêmes consommateurs que chez nous. Des jeunes ensemble, il n'y a absolument aucun respect du protocole. Donc voilà pourquoi on remet en question cette rupture du principe d'égalité.
À la différence des bars et restaurants, les commerces jugés non essentiels, eux, ont un horizon de réouverture le 1er décembre, à condition que l'épidémie reflue. Signe encourageant dans la presse quotidienne régionale. Olivier Véran, ministre de la Santé, assure ce matin que nous avons dépassé le pic, mais rester fermé pour de très nombreux commerçants, c'est risquer la ruine personnelle. Alors une très petite minorité a décidé de se rebeller. On s'arrange avec les règles pour continuer à accueillir des clients. Écoutez ce gérant d'un magasin de vêtements de cuir à Toulouse, il s'appelle Antoine.
Nous ouvrons sur rendez-vous, nous veillons qu'il n'y ait pas plus de 2 clients à la fois, sachant que nous avons 200 mètres carrés. Les gens nous appellent, vous prennent rendez-vous par mail et viennent. Appelez ça de la rébellion, mais quand vous avez un genou et demi à terre, quand vous êtes en mode survie, si vous voulez, vous voyez les choses d'une autre manière. Le fonds de solidarité de 10 000 euros va être versé. Nous, il correspond, si vous voulez, c'est le deuxième mois de l'année, novembre. Il correspond à 3% de notre chiffre d'affaires, de notre perte. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ça? Il y a plein de petits commerçants qui ne se payent plus depuis des mois et des mois. J'ai parlé avec une ce matin, qui ouvre parce qu'à la fin du mois, elle ne peut même pas payer le loyer de son appartement. Et vous allez dire après aux gens qui s'insurgent, pourquoi vous vous insurgez? C'est pas bien ça.
À propos recueilli par Émilie Vallès, elle aussi souffre en ce second confinement de la fermeture des rayons dits non essentiels. C'est la grande distribution qui met plus de 100 000 salariés au chômage partiel. Bonjour Éric Mauban.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Alors cette mise en chômage partiel fait polémique.
Mais oui, dans certains hypermarchés, des salariés ont vu leurs heures de travail divisées par deux. L'application du dispositif de chômage partiel se fait magasin par magasin en fonction des besoins. Côté syndicat, certains dénoncent des abus. Beaucoup y voient une attitude revancharde de la part de la distribution. À leurs yeux, des enseignes pourraient très bien se passer du recours au chômage partiel. Sûrement certaines y voient là un moyen de faire payer par les contribuables la fermeture de certains rayons et même un chômage partiel qui pourrait être évité. Puis ça peut être aussi un moyen également de faire pression sur le gouvernement pour obtenir au plus vite la réouverture de tous les rayons. Quelques marques entendent se démarquer, c'est le cas de Leclerc qui affirme haut et fort que tout est fait pour reclasser des personnes en renfort sur des activités ouvertes. Même discours chez Super U qui affirme redéployer les vendeurs privés de leur activité habituelle sur des tâches qui explosent avec le confinement comme le drive. En tout cas, certains distributeurs pourraient ne pas se montrer aussi scrupuleux. Le ministère du Travail le sait et promet que toutes les demandes de chômage partiel seront soigneusement vérifiées.
Éric Mauban, à ce jour d'ailleurs, selon le ministère du Travail, 5 300 000 salariés font l'objet d'une demande de la part de leur employeur de couverture en novembre pour au moins un jour de chômage partiel. Cela devrait coûter 7 milliards d'euros selon Bercy. En mai, il y avait eu des demandes pour 12 700 000 salariés. 7 millions d'eux avaient réellement bénéficié du dispositif.
Le journal de l'économie sur Radio Classique.
Il est 6h43 dans l'actualité également ce matin. Grosse activité parlementaire ce week-end au Sénat. On débat en première lecture du budget 2021 de la Sécu. Le vote est prévu mardi. Samedi, les sénateurs ont largement adopté le doublement du congé paternité de 14 à 28 jours, dont 7 jours obligatoires. 3 de ces jours seront à la charge de l'employeur, les 25 autres à celle de la Sécu. Les députés, eux, ont achevé l'examen en première lecture du budget 2021. Ils ont adopté vendredi le nouveau malus sur le poids des voitures de plus de de 1800 kilos, soit 2 à 3% des immatriculations, estime l'Assemblée. Les députés ont aussi voté la révision à la baisse des tarifs de 800 vieux contrats signés avant 2011 pour la production d'énergie solaire. Très en colère contre cette décision, un collectif lié à la filière photovoltaïque menace de saisir le Conseil constitutionnel. En Asie maintenant, le Japon renoue avec la croissance au troisième trimestre, plus 5% entre juillet et septembre, après moins 8,2% d'avril à juin. Au quatrième trimestre, la deuxième vague de Covid partout dans le monde devrait toutefois ralentir la reprise japonaise. De bons chiffres chinois également qui sont parus cette nuit. La production industrielle, plus 6,9% en octobre, c'est plus fort qu'attendu. Les ventes au détail aussi, plus 4,3% le mois dernier. La consommation repart plein pot en Chine. Ce coup de maître également ce week-end de Pékin. Après 10 années de pourparlers, la Chine, le Japon, la Corée du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande ainsi que les 10 nations membres de l'ASEAN, l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, ont signé le plus grand accord commercial de la planète, baptisé RCEP, Partenariat économique régional global. Cet accord crée une zone de libre-échange qui couvre 30% de la population mondiale, 30% aussi de la richesse et du commerce mondial. Écoutez Jean-François Di Meglio, il est le président de l'Institut de recherche Asia Centre.
Là où la Chine, quoi qu'il arrive, est gagnante, c'est qu'elle consolide une région là où effectivement la mondialisation est menacée par la réduction des transports, par la réduction des volumes transportés d'un continent à l'autre. Ça aura certainement un effet positif, puisque sur des droits de douane essentiels, il va forcément y avoir une réduction, donc il va y avoir une accélération de la circulation des biens. Ça résout aussi un problème entre pays de l'ASEAN, qui eux-mêmes n'ont pas résolu tous leurs problèmes commerciaux entre eux, alors qu'ils sont supposés déjà appartenir à une même zone politico-commerciale.
Ouais, le fait marquant de cet accord aussi, c'est qu'il se conclut sans les États-Unis. Donald Trump avait fait le choix il y a 2 ans de se retirer d'un accord concurrent, le partenariat transpacifique. En bref, dernière ligne droite des négociations sur le Brexit. On est à présent à 45 jours de la fin de la période de transition qui doit s'achever au 1er janvier. Coup de théâtre ce week-end à Londres. Boris Johnson s'est débarrassé de son conseiller Dominic Cummings, architecte de la campagne pour le Brexit. Bruxelles y voit un signe encourageant. Enfin, Orange, le groupe Orange vient de se faire rembourser plus de 2 milliards d'euros par le fisc. Victoire pour le groupe dans un litige vieux de plus de 15 ans avec Bercy. C'est de l'argent bienvenu pour bâtir le réseau 5G. Orange a déboursé pour les fréquences récemment plus de 850 millions d'euros. Les marchés pour finir ce matin en Asie, Tokyo est en hausse de 1,6%. Vendredi, le CAC finissait en hausse aussi de 0,33% à 5380 points en 2 semaines. L'indice parisien a repris 800 points. Il n'est plus que 10% sous son niveau du 1er janvier. Alors, est-ce que ça va tenir? L'euphorie du vaccin semblait un peu retomber vendredi. Les chiffres des nouvelles contaminations se stabilisent en Europe, mais l'épidémie repart très fort aux États-Unis. Ce n'est pas très encourageant. Quelques valeurs, citons Renault, plus 5,74, Airbus, plus 1,12, gagné 22% sur la semaine. À Wall Street, enfin, le Dow Jones, plus 1,37%, 29 500 points.